encore une fois un jeu que je n'ai jamais fini, tu vois, mais qui m'a suffi à me marquer assez pour y repasser un nombre incalculable d'heures.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Salut à tous. Aujourd'hui, on est super content d'accueillir Sylvain. Après avoir travaillé pour Golden Moustache, Sylvain s'est lancé sur YouTube avec des vidéos de type enquête. Parallèlement, il a créé le site Becherel ta mère qui tourne en dérision les fautes de français les plus courantes, puis a sorti le livre Je t'apprends le français bordel sur la même thématique. Plus récemment, il a commencé à streamer sur Twitch et a également participé à l'émission Popcorn en tant que chroniqueur. J'ai personnellement commencé à te suivre après ta vidéo sur Motus et j'ai particulièrement partagé celle sur Epic Games qui mérite d'être vue, comme toutes les autres évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Comment tu vas aujourd'hui?
Bah ça va très bien, après autant d'éloges, merci beaucoup, c'est sympa de me proposer ça. Et je suis content que la vidéo Epic Games ait plu, c'était un gros morceau à traiter mais je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant derrière comment ils ont réussi à bâtir cet empire, tu vois. Je trouve que c'est assez passionnant pour un studio de jeux vidéo, malgré toutes les problématiques de crunch, etc. Tu vois, évidemment, comme on a un peu partout, mais ouais, on va en traiter un peu de ce genre de sujet et d'histoire en général du web. Mais merci de me recevoir.
Très cool. Sur la vidéo d'Epic Games, vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était le dirigeant, en fait. Genre, une sacrée personnalité, quoi. Et qui a d'ailleurs continué à faire des scènes, parce que enfin Fortnite n'est jamais ressorti sur Mac, quoi. Enfin sur Apple.
Ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans l'idée derrière Epic Games, c'est donc Tim Sweeney déjà qui est effectivement le patron qui effectivement tient ses combats. Tu vois, il a ses combats avec Apple notamment, et faut oser, tu vois, se dire je vais couper Fortnite sur iOS et tout ce qui est Apple. Tu dis mais attends, c'est quand même une manne financière énorme. Mais bon voilà, pour le moment ça n'a pas abouti, je sais qu'ils sont toujours en procès il me semble, mais tu vois le côté le plus intéressant je trouve de chez Epic Games qu'ils ont su saisir très tôt, c'est laisser le pouvoir aux joueurs de créer du contenu, et en faisant un éditeur très vite sur Unreal, par exemple sur les Unreal Tournament, etc., tu vois, et faire de, tu vois, c'est comme le mode créatif de Fortnite où tu te retrouves avec des millions de modes de jeu créés par les joueurs, et donc ton temps de jeu devient infini. Et il y a beaucoup de boîtes qui ont l'air un peu réticentes encore à faire ce genre de truc. Tu vois, Overwatch, c'est arrivé très tard, déjà sur un très gros déclin, tu vois. Mais je trouve que c'est la façon la plus intéressante de se dire, si tu veux que ton jeu perdure, laisse les gens faire des trucs parce que c'est des passionnés, et que si tu leur donnes les outils pour faire des modes de jeu, peut-être ils feront des trucs cool, tu vois. Et t'as beaucoup de leurs employés qui ont été recrutés comme ça au départ, tu vois.
Mmh. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué.
Ouais.
On va commencer avec ton premier jeu. Donc, pour commencer, tu as choisi Mario Bros. 3, fameuse licence Nintendo. Ce quatrième opus de la série est sorti sur la NES en 88 au Japon, en 90 en Amérique, puis en 91 en Europe. On retrouve, comme d'habitude, Shigeru Miyamoto aux commandes avec Takashi Tezuka. Ce platformer a une référence du genre, et ce jeu en particulier a introduit des éléments qu'on retrouve quasiment dans tous les jeux Mario de la licence, comme la plante piranha qui lance du feu, les boues ou Skelly Rex. Pourquoi ce jeu en premier?
Ce jeu en premier parce que j'ai passé tellement d'heures, voire de jours, de semaines dessus. quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'avoir... Enfin, j'ai 30 ans, tu vois, je suis dans 92. J'ai eu la chance de tomber dans cette période-là où j'ai pu connaître la NES. J'avais une Master System 2 aussi. J'avais une Atari. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir plein de trucs quand j'étais gamin. Donc, beaucoup de choix de jeux vidéo, et c'était un régal. Plus du côté de mon oncle, parce que mon père était pas trop, enfin mes parents étaient pas trop aux jeux vidéo, mais un peu, tu vois, on a pu jouer ensemble, mais c'était pas leur passion absolue. Et donc j'ai eu les trois Super Mario Bros sur NES. J'ai eu le 1 effectivement qu'on connaît tous, qui est le premier opus. Le 2 qui est un ovni, mais qui est une adaptation d'un autre jeu, donc c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, Super Mario Bros 2.
Ouais, c'est ça.
Il est un peu en dehors de la série, tu vois, j'ai l'impression, enfin en tout cas de ce trio-là.
Au Japon, il est sorti sous un autre nom même.
Ouais, ouais, il était pas brandé Mario à la base, c'était vraiment une reskinée, si je dis pas de bêtises, et c'est pour ça qu'il a des mécaniques si différentes, tu vois. Et Super Mario Bros 3, rien que, déjà, l'image, la jaquette, tu vois, je sais pas, moi, elle me rappelle l'enfance, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, tu vois, de ces périodes-là. Et j'étais fasciné par, juste déjà, visuellement, je trouve qu'il mettait une tarte à beaucoup de jeux. Et quand tu voyais le premier Mario, je trouve que t'as tellement de diversité dans les mondes. Les musiques sont incroyables. T'as le système de mondes différents, tu vois, qui est sur une map. toutes les transformations de Mario, tu pouvais voler, t'avais le Mario Tanuki, t'avais énormément de choses, et c'est marrant parce que je me suis buté dessus, mais je suis même pas sûr de l'avoir fini. Ça, c'est ma grande spécialité, c'est de kiffer les jeux et ne jamais les finir. Et il faudrait que je le finisse un jour, tu vois, mais je trouve qu'il a posé tellement de bases effectivement, dans le platformer, là où Super Mario Bros. 1 avait déjà posé des énormes bases. Je trouve que Super Mario Bros. 3 apporte tellement de petites mécaniques en plus, de niveaux secrets, de trucs qui sont passionnants, tu vois. Enfin, tu vois, t'avais toutes les warp zones, les secrets avec les flûtes où tu pouvais aller de monde à différents mondes, etc. Et c'était à une époque, je sais même pas comment je l'ai connu parce que j'avais même pas encore internet, mais ça devait être un, tu vois, qu'à l'époque on se faisait encore passer un peu les secrets de jeux vidéo dans la cour. Mais ouais, en fait, c'était un peu la même période, tu vois, où après je suis tombé dans Pokémon sur Game Boy, que j'ai failli citer aussi. Mais Super Mario Bros. 3, l'ambiance du jeu, je sais pas, il y a un truc que je trouve mystique dedans qui me plaît trop. Je sais pas si vous y avez joué, vous.
Si, évidemment, je pense. Pareil, enfin, je suis 93, donc c'est quasiment la même période, là.
Ouais.
Et j'avais un grand frère, moi, personnellement. Du coup, je pense que c'est lui, à la base, qui avait la NES. Et j'étais un peu sur le côté, en mode, ah, je le regarde jouer, j'apprends en regardant, et au bout d'un moment, je pense que j'ai eu à moi aussi l'occasion de jouer et d'appréhender tout ça. Et je me souviens surtout aussi du mode multijoueur où t'étais tu pouvais affronter genre une autre personne, quoi. Et
c'était drôle.
Ouais, drôle et très frustrant à la fois parce que genre il y a des monstres qui pouvaient apparaître des deux côtés. Tu pouvais utiliser le pow là. Enfin, il y avait plein de mécaniques hyper intéressantes et ça, c'était un jeu presque à côté du jeu, mais il était tout aussi fun et des bons souvenirs là-dessus, ouais.
Je crois que ça vient d'un des premiers Mario, justement, même avant ça, ce mode-là. Enfin, j'ai jamais trop su le retrouver d'où ça venait, mais c'est vrai que je l'avais déjà vu ailleurs en tant que jeu standalone, tu vois, enfin, qui existait en tant que tel. Mais ouais, ce petit battle-là, ça, je pouvais passer des heures dessus. Enfin, tu vois, sur la NES, c'était déjà incroyable, quoi.
En faisant mes recherches, en fait, je l'ai vu le jeu, puis je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir joué à celui-là toute mon enfance aussi. En fait, c'est le remake sur Game Boy Advance.
Ouais.
Et c'est à celui-là que j'ai joué. Et moi, c'était pour le coup, c'est mon petit frère qui l'avait eu. Et on s'était buté à deux dessus. Et quasiment sûr qu'on l'a fini. Mais alors nous, on faisait vraiment, parce qu'il y avait les warp zones, etc. Mais nous, on faisait un niveau par un, puis entier. Enfin, on avait absolument tout fini.
Ouais.
Mais ouais, il y avait aussi l'introduction des enfants de Bowser. Toi, t'étais là en mode, Bowser, c'est le grand méchant. Mais au final, genre, t'en avais un par château à chaque fois. Puis après, tu devais tous les re-rencontrer à la toute fin. Puis sur Game Boy Advance, ils avaient un peu changé ça. Je pense qu'ils avaient mis des têtes un peu différentes, enfin, juste pour pouvoir les différencier, on va dire.
Ouais, il y avait ça. Et puis, même, tu vois, je trouve que t'avais énormément de diversité dans les décors. C'est-à-dire que t'avais un monde, c'était le désert. Donc, forcément, t'avais toute la thématique du désert, etc. Le dernier niveau, c'était très souvent, tu vois, enfin, t'avais un bateau qui se baladait aussi, qui pouvait apparaître de façon random sur la carte aussi, par moment. Enfin, t'avais tellement de petits trucs. Et puis, en vrai, il y a un paquet de niveaux, hein. Je sais plus dans mon souvenir, mais, il doit y avoir 7 ou 8 mondes dans mon souvenir, 8 mondes il me semble, 9 même du coup peut-être, je sais plus, et c'est vrai que enfin si tu voulais vraiment le finir à l'époque à l'ancienne, en mode si tu meurs tu reviens au début, je crois qu'à l'époque tu revenais au début du monde si tu mourais, j'ai un petit doute, ça fait très longtemps que j'y ai pas vu, mais c'était déjà assez punitif, tu vois. En plus t'avais un système d'inventaire, tu vois, déjà où tu pouvais stocker tes power-up, enfin je trouve que c'était tellement complet. Et effectivement, le remake sur Game Boy aussi était très cool. Il l'avait reskiné un peu. Et tu vois, c'est marrant. Par exemple, moi, j'ai pas eu la Super NES après. Mais j'avais joué un peu à Super Mario World à côté, tu vois. J'ai de la famille et tout. Et j'avais pas eu la même expérience, tu vois. Après, j'étais déjà très attaché. Mais Super Mario World, je le trouve... c'est bien ça, hein, sur Super NES, si je dis pas de bêtises. Ouais, Super Mario World avec Yoshi et tout. Tu vois, je le connais si peu. Mais... J'ai pas retrouvé la même sensation. Je trouvais que c'était une toute autre ambiance qui était cool, mais c'était pas le Mario qui me faisait kiffer, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais ravi aussi quand Mario Maker est sorti, de pouvoir rejouer des niveaux sur le moteur un peu de Super Mario Bros. 3. Quel régal. J'adore.
C'est vrai. Est-ce que moi j'ai essayé de comprendre, mais la flûte, je me rappelle absolument pas de la flûte. Vraiment, c'est dans mes souvenirs, quand j'ai regardé un peu je me suis amusé à regarder le speedrun. Puis si t'avais deux flûtes, de ce que je comprenais, la première flûte te mettait dans la warp zone, la deuxième flûte te mettait sur le monde 8. Donc en fait, tu faisais un shortcut incroyable.
C'est ça, ouais.
Je me rappelais pas comment ça s'utilise, comment ça se trouve. Enfin, ce truc-là, j'étais là, genre, je pense que j'ai pas eu les infos dans la cour de récré, moi, personnellement, là-dessus.
Bah, je sais plus d'où je l'ai, parce que je pense que, ou alors c'était à l'époque où tu commençais à aller sur jeuxvideo.com et t'avais l'étage, je sais pas, T-A-J-V, là, je sais pas comment on prononce, je prononçais étage quand j'étais gamin, mais l'encyclopédie, tu vois, des jeux vidéo un peu. Et je me souviens, donc, la première flûte, elle est, en fait, les deux sont dans le monde numéro un. Il y a une troisième flûte. Pour moi, c'était une légende urbaine à l'époque, je ne savais pas où elle était, tu vois. La première, elle se trouve en, si tu te baisses sur un certain bloc pendant un certain temps, tu passes derrière le décor, sur des blocs blancs.
Mais oui.
Tu passes derrière l'écran de fin d'un des niveaux. Et là, t'as une sorte de maison de Toad où il te, de Toad, où il te donne la première flûte. Et la deuxième, c'était dans le premier château, le premier petit château. Ou si tu volais assez longtemps au-dessus d'un truc, t'accédais à une autre salle qui t'évitait de faire le boss et te donnait une flûte. Et je trouve ça fascinant déjà d'avoir pensé, il y avait déjà les warp zones, tu vois, dans le premier, il me semble. Enfin, c'était, je sais plus si c'était complètement des warp zones, mais si t'as des warp zones, si t'avais des warp zones.
Ouais, totalement.
Et je sais pas, tu vois, laisser la possibilité aux gens dès le premier monde d'accéder au dernier monde. Enfin, je connais pas de jeux qui le font sans cheat code, tu vois. À l'époque, on avait aussi beaucoup les codes que tu pouvais entrer. Moi, je me souviens de parties sur Aladdin, pareil, que j'ai poncé quand j'étais gamin.
Oh, wow.
Et t'étais content de noter le code que t'avais pour pouvoir revenir à l'endroit où t'étais, parce qu'il était dur en plus, tu vois.
Bah, les warp zones, il me semble que c'est inventé pour justement, enfin, il y a pas de système de sauvegarde, donc c'est juste pour pouvoir revenir à d'autres mondes si t'avais besoin.
Ouais, j'imagine. Et c'est vrai que moi, parfois, je me disais, bah tiens, je vais prendre ma flûte, je vais aller dans tel monde après. Pareil, tu vois, il y avait un monde qui était juste des gros objets. Genre, c'était un des derniers mondes où tout était plus gros.
Ouais, ouais.
Et je trouvais ça fascinant, tu vois. Je me dis, mais c'est... Enfin, je trouve qu'il y a un parti pris de un peu marrant, tu vois, avec tous les éléments qu'ils ont déjà en place, qui sont super bien, et tu fais, mais c'est trop bien, tu vois. Je me souviens pareil, de map où t'avais... que des tuyaux partout, fallait choisir le bon, ça s'embranchait dans tous les sens. Enfin,
un labyrinthe, là.
Ouais, t'avais vraiment un truc magique, je trouve, dans ce Mario-là. Il y avait même des niveaux verticaux. Bon, t'avais malheureusement des niveaux sous l'eau, ce que je déteste. Mais, tu vois, je trouve que les bases que ce jeu a posées, même la musique était belle. Je pourrais dire des compliments pendant une heure dessus, tu vois, mais ça fera pas avancer le débat. Mais je sais pas, moi, il m'a vraiment touché, accompagné quand j'étais gamin, ce jeu. Ouais, j'aime trop. Faut que je me le refasse. Je vais essayer de le refaire en entier, tiens.
Trop bien. Je pense que c'est un bon programme à streamer, ça, potentiellement.
Ouais, c'est clair.
Et t'as parlé, là, des mondes sous l'eau. C'est marrant, moi aussi, c'était un des trucs que je détestais. Même quand t'avais le costume grenouille, là, c'était un peu plus facile parce que t'allais plus vite, etc. Mais
ouais.
C'était quand même bien pénible. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux comme ça qui t'ont posé plus de difficultés ou dont tu gardes un plutôt mauvais souvenir?
Je sais plus précisément dans quel monde c'est, ça doit être vers le 5 ou 6, où t'as une partie qui est dans le ciel, et genre vraiment, c'est très punitif. C'est très très punitif, et je sais plus si c'est au même moment. Enfin, je trouvais par contre que, tu vois, l'univers de ce truc-là dans les airs, pour retranscrire autant de je sais pas, d'ambiance sur une NES, ils avaient fait très fort, tu vois. Je trouve que t'avais vraiment un truc où tu sentais que tout était un peu bizarre, un peu onirique, mais c'était assez dur aussi. Et je me souviens de niveaux avec de la glace aussi qui était vraiment assez insupportable. Mais tu vois, ils avaient déjà mis toutes ces mécaniques en place, le sous l'eau, la glace, le désert, t'avais rien de particulier. Si, t'avais des tornades dans le désert aussi, mais c'était pas forcément très difficile.
Le soleil aussi.
Ouais, le soleil, il était chiant. Hein.
Ouais.
Le soleil, détestable. Hein. Mais c'est pour ça que quand je regarde les speedruns, je vois les mecs faire, bah en fait, tu voles au-dessus et c'est fini. Tu vois. Humiliez-moi, allez-y. Mais ouais, cela. Et en vrai, les niveaux de fin étaient pas si évidents. Le dernier monde, mais que je connais moins du coup parce que je me suis moins buté dessus, où tu voyais pas forcément où t'allais complètement. T'avais ces sortes. Alors déjà, t'avais des tanks. Vraiment dans le monde de fin, t'avais des tanks. C'est fou quand même dans un jeu Mario, tu vois. Je me souviens de quand ils ont enlevé le casino de Mario, tu vois, sur la 64. Non, ils l'ont même pas enlevé sur l'adaptation DS. Ils avaient gardé le truc un peu casino. Je sais pas si ça vous parle.
Je joue au poker. Un peu. Ouais, si. Un mini-jeu avec Luigi, je pense, qui est copié, ou une bêtise comme ça, ouais.
Je sais que Nintendo, ils avaient mis des jeux de casino un peu par-ci par-là, tu sais, comme dans Pokémon, dans les premiers Pokémon, puis à Céladopole, et puis ils les avaient enlevés. Et voir des tanks dans un Mario, je suis, mais ça n'est pas du tout le même monde, tu vois, genre. Et c'était assez dark, en vrai. Mais il y avait quand même de la difficulté, pour le coup, à l'époque. Enfin, sans surprise, tu vois, les jeux, à l'époque, c'était quand même assez punitif dès que tu te trompais de touche, quoi.
Après, Mario World était plus simple.
Peut-être, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, tu vois.
Ouais. À Mario World, je me rappelle que tu pouvais avoir une espèce de cape. Et à ce moment-là, oui. Si tu courais, tu pouvais t'envoler. Et après, tu faisais juste gauche, 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 gauche. Et puis ton mec faisait. Et t'es arrivé jusqu'à la fin du monde. Genre, il y avait certains mondes où vraiment, t'avais rien besoin de faire parce que tout était au sol.
Ah, c'est vrai, je vois le truc, oui. Mais ouais, Mario Bros. 3, je trouve qu'en termes de difficulté, c'était déjà quand même, enfin, pour un gamin, c'était déjà assez intéressant, tu vois, t'avais de quoi t'occuper, quoi. Et puis, la longévité, en vrai, le jeu était super long, tu vois.
Est-ce que l'univers Mario, au global, c'est un univers où ça revient souvent ou pas?
Ouais, mine de rien, ouais, je suis, tu vois, je les ai pas tous faits, j'avais beaucoup fait la série des New Super Mario Bros, parce que c'était vraiment dans la continuité, tu vois. Que ce soit sur DS, sur Wii, notamment. Ensuite, je suis parti sur Mario Maker et bien sûr le dernier Mario sur Switch dont j'ai oublié le nom. Alors, pas le dernier, mais le gros Mario 3D.
Je crois qu'il s'appelle Mario 3D World.
Pas celui-là, justement. C'était pas Galaxy, c'est...
Odyssey ?
Ah, Odyssey, ouais. Odyssey. Odyssey que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que tu vois, pareil, j'avais... Les Mario 3D, j'ai un peu moins joué. J'avais fait Mario 64, etc. à l'époque. Sur émulateur à l'ancienne parce que personne ne voulait m'acheter la 64.
Oh waouh!
Chut, chut! Et après, je l'ai refait sur DS et tout. Parce que, pareil, je trouvais fascinant comme jeu, tu vois, à voir de loin. Je l'avais testé un peu et je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? C'est incroyable, tu vois. Mm. Moi, à l'époque, en plus, j'étais plus parti sur la PlayStation que sur les consoles de salon, tu vois, donc je voyais ça de loin. Mais j'ai pas fait les Galaxy, j'y ai joué très peu. Mais là j'ai pris, il y avait le pack Nintendo, enfin il y avait trois jeux là récemment sur Switch qui sont sortis pour le 30e anniversaire, je crois. Et je l'ai pris, j'y ai pas encore joué, mais tu vois, je l'ai mis de côté, je sais qu'il était un peu, qu'il serait pas distribué forcément tout le temps le jeu, je crois que c'était limité. Donc je l'ai pris pour pouvoir me faire Galaxy au moins une fois sur Switch et tester un peu ça. Par contre, je matais beaucoup de speedrun de Mario Sunshine, de Mario Galaxy, c'était des trucs même sans connaître le jeu. Parce que du coup, pareil, Sunshine aussi, je l'avais raté, vu que j'étais sur PlayStation 2 à cette époque. Je trouve ça fascinant. Moi, j'aime beaucoup le speedrun, tu vois, donc regarder des mecs ou des meufs se buter à faire son PB sur des jeux où je ne sais même pas comment ils traversent ce mur-là, j'adore. J'adore ça. Mais ouais, Mario, c'est resté beaucoup, ouais. C'est resté beaucoup.
Et le film, pour finir?
Le film, incroyable, incroyable. Moi, j'étais vraiment les teasers et les trailers me donnaient les larmes aux yeux parce que je pensais jamais voir un truc aussi bien sur Mario de ma vie, tu vois, depuis que j'étais gamin. Parce que j'ai grandi avec le film Mario, je l'ai vu quand j'étais gamin, le premier. Celui qui est bien cursed, tu vois. Et il faut que je me le remate avec des potes parce que c'est trop drôle, enfin, tu vois. Mais il était traumatisant, hein, pour un gamin, tu comprenais pas. Comment ça peut être aussi dark, Mario? Mais le film d'animation, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je me suis régalé. Hein.
Mmh. Ah, vraiment. Tu sais, il y a tout qui est bien.
Mmh. Ouais, moi, je trouve. Hein. C'est...
Je pense qu'il y a besoin de le voir plusieurs fois. Genre, la première lecture, elle est cool, peut-être juste en surface, mais après, pour vraiment... Enfin, tu vois, sur YouTube, tu vois le nombre d'easter eggs, de petits détails qu'ils ont mis, c'est impressionnant.
Ah, je pense que je vais essayer de les trouver en le rematant. J'étais très content de le voir en français, tu vois. Et je suis content que la VF soit aussi bonne. Ça fait plaisir, sans Star Talent en plus, donc t'as vraiment ce truc qui est cool. Mon seul regret, c'était de pas avoir Jack Black, donc j'espère qu'un jour, quelqu'un va monter, où j'ai envie de le faire un peu, une version avec toute la VF, mais Bowser, c'est Jack Black, et on reprend la VF, tu vois. Ça, c'est mon seul petit regret, parce que trop fort, Jack Black, tu vois.
Moi, je l'ai vu en anglais, pour le coup, mais tout le monde m'a parlé de la VF, et m'a dit c'est la meilleure version, à part Jack Black, donc je pense que quand le film va sortir... En Blu-ray, autre, je regarderai, mais en français.
Ouais, je pense que ça peut être cool. En vrai, la VF, enfin, je sais pas, c'est trop bien, justement, qu'en plus, la France ait la réputation d'avoir la meilleure VF sur ce film. Je me souviens des trailers et tout. Tout le monde disait, mais la version française, elle déchire tout, tu vois.
Ouais, ouais.
C'était trop cool. Ouf. Mais ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que là, bon, Nintendo, je pense pas qu'ils s'arrêtent là-dessus, tu vois, avec un carton pareil, pardon.
J'ai entendu la rumeur de un film Zelda.
J'ai vu ça, et il y avait eu des rumeurs à l'époque d'une série Netflix, mais comme ça avait fuité, peut-être que ça avait été annulé. Tu vois, il y avait eu des histoires comme ça. Je pense que là, effectivement...
Avec le même studio, je veux dire.
Ouais, avec...
Un Zelda, mais avec le même... Avec Illumination.
Ouais, avec Illumination, mais... ouais, je pense... Enfin, ça coule sous le sens, dans le sens où l'univers Zelda, il est tellement complet, qu'ils peuvent tellement faire un film aussi bien pour les jeunes que... Bah, un truc qui pète dans tous les sens, avec de l'émotion, enfin t'as tout quoi. Et je sais que le grand débat c'est est-ce que Link parlera dans le film, tu vois.
C'est vrai. Forcément. J'ai hâte de leur faire des
tu le fais super bien.
C'est, je me suis entraîné. Dernièrement, j'ai pas mal joué à Zelda, puis au boulot, genre, j'étais...
Moi, je peux te faire le Mario 64 quand il se prend un mur, genre, ça fait...
Oh my god. Tu l'isolais, ça.
Merci, merci. Moi, je m'entraîne, hein, tu sais, c'est comme toi, c'est de l'entraînement.
Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai plus peur d'un Zelda en film que Mario.
Ouais, bien sûr. Enfin, non, vas-y.
Non, j'allais dire, il y a aucune attente, non, sur un Mario. Enfin, en soi, tu sais, Mario, on était juste là en mode, bah, il va sauver la princesse, mais sur un Zelda, il y a peut-être plus d'attente, quoi.
Ah, bah, en fait, c'est, déjà, t'as pas la même cible, c'est quand tu fais un Mario, tu joues à un Mario Odyssey, tu t'y joues pas comme tu joues à Tears of the Kingdom, tu vois, je pense. Genre, surtout, moi, j'ai pas encore fait la Tears of the Kingdom, j'ai fait que les 30 premières minutes, je me suis dit, là, j'ai pas le temps, je peux pas me plonger dedans, je veux le faire bien, tu vois. Parce que je sais, quand j'étais tombé dans Breath of the Wild, ça m'a mis, voilà, ça m'a pris des semaines à ne pas en sortir, tu vois. Et, mais en même temps, il y a un truc, enfin, t'as tellement de lore, au fil des jeux, enfin, tu vois, qui c'est très généreux. Moi, je suis pas calé dans tout le lore de Zelda, mais j'en ai fait pas mal. Et t'as toujours ce côté assez, enfin, t'as de l'émotion, t'as de l'action, t'as, enfin, c'est une licence qui est quasi intouchable pour les fans, tu vois, donc faut pas faire n'importe quoi avec. Alors qu'un Mario, bon, tu dis, bon, au pire, c'est raté, ou au pire, c'est vraiment pour les gamins. Zelda, c'est quand même plus mature, tu vois, donc forcément, je comprends la peur, tu vois, du truc.
On va passer au deuxième jeu ?
Ouais.
Ok, en deuxième jeu, on part sur Little Big Adventure, aussi connu sous le nom de Twin Sands Odyssey, pour les gens d'Amérique du Nord, développé par Adlin Software International, qui est un ancien studio lyonnais, puis publié par EA, puis Activision en 97. Ce jeu d'aventure à la troisième personne est un mélange d'action et de puzzle dans un monde assez fou. Il est le deuxième et dernier jeu de la série et fait encore parler de lui à travers des rumeurs de parution d'un troisième jeu. On en parlera. Et personnellement, ce qui a marqué là-dessus, c'est vraiment le dévouement et la liberté créative du studio de développement. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué sur ce jeu?
Moi, j'ai une question. Donc, c'est surtout sur le 2. Moi, j'ai testé vite fait le 1, mais donc Little Big Adventure 2. Vous connaissiez? Vous y avez joué ou pas? Par curiosité.
Moi, j'ai pas joué, mais j'en avais entendu parler plein de fois. Et du coup, genre, là, en regardant des vidéos, j'étais en mode, ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et perso, moi, j'y ai joué. Et quand j'ai vu que t'avais proposé ce jeu, j'étais comme, waouh! Je pensais jamais que personne allait le mettre dans son top 3. Donc, j'étais hyper content.
Ah, ça fait plaisir.
J'ai même demandé à mon frère, du coup, mais comment on a eu ce jeu-là et tout, j'ai essayé d'avoir des tips un petit peu, et il sait même pas trop, il dit qu'un jour quelqu'un nous l'a offert, et genre, je sais pas, il est arrivé comme ça dans notre bibliothèque de jeux un peu, mais ouais, j'ai trop hâte de parler de ça avec toi.
Ah, c'est trop bien, je suis content d'avoir quelqu'un en face qui connaît le jeu, parce que, mine de rien, ça a été un carton, je crois, à l'époque, parce que, bon, il y avait pas beaucoup de jeux PC, encore moins en 3D, de cette forme-là, qui est presque de l'open world, finalement, tu vois.
Ouais.
Même s'il fallait suivre un chemin, tu vois, c'était les balbutiements un peu de ça. Mais j'ai l'impression que ça reste assez rare, tu vois, les gens qui ont joué ou qui ont une attente envers ça, ça reste des petites communautés. Et ouais, moi, je me suis retrouvé, mon oncle m'avait ramené un vieux PC sous Windows 95, quelques jeux un peu gravés. Mais, et je mets ce truc dans l'ordi et je suis OK. J'avais ça et l'Odyssée d'Abe, donc tu vois, à l'époque, je pouvais aller péter pour chez les aliens, là, tu vois, ou ce jeu. Et donc, je faisais un peu les deux, et Little Big Adventure, je sais pas, il y a eu un truc... j'étais fasciné déjà de voir de la 3D comme ça dans un jeu PC.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas, je peux pitcher un peu l'histoire rapidement, mais en plus, ouais, l'histoire est compliquée dans le sens où c'est un personnage qui s'appelle Twinson, qui habite sur une petite planète... avec sa femme qui attend un enfant. Il a un dinosaure, c'est leur dinosaure de compagnie qu'il faut soigner, c'est ça le début du jeu. Il y a une grosse tempête sur leur île et il va falloir trouver comment retrouver le météorologue pour qu'il puisse faire partir la pluie et que tu puisses aller dans d'autres zones ensuite. Mais globalement, les aliens débarquent et commencent à foutre le bordel sur la planète. Et c'est un jeu qui est assez complet. T'as une sorte de gestion du personnage qui est... t'as plusieurs stades. T'as le stade normal, course, agressif, discret, que tu dois switcher un peu à chaque occasion. tu peux devenir mage. Il y a une école de magie.
On en parle.
Ah là là, avec les épreuves et tout. Et les... enfin, en vrai, t'as plein de trucs incroyables dans ce jeu. Je sais pas si tu te souviens de cet énorme dôme dans lequel il y avait un passage qui se révélait que quand t'avançais.
Si, 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 ouais.
Mais je trouve que visuellement, ça avait un sacré truc, tu vois.
Et ça m'a marqué le nombre de fois où tu tombes et tu meurs dans ce truc-là. C'est,
bien sûr.
C'est débile. En gros, j'ai été retourné voir des gameplays de ça. Ça s'appelle l'îlot du dôme de l'ardoise.
Oui.
Tu pouvais justement y aller uniquement avec ton Dino Fly, là. Donc, fallait déjà le soigner. Soit c'était à un certain niveau d'avancée dans le jeu. Et c'est véritablement un labyrinthe dans le noir. Comme tu le dis, il y a des cases qui s'allument un peu au fur et à mesure que tu avances. Et enfin, c'est vraiment traumatisant là. Je sais pas combien de fois j'ai refait ce truc là, parce que bah tu peux pas vraiment savoir le chemin. Enfin, si à l'extérieur il y a
t'avais une carte, je crois,
ouais, ça, une carte, mais
je crois que l'ai redessiné.
C'est ça, j'ai dû la dessiner, mais t'as 10 ans, je le fais hyper mal. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a des histoires de perspectives et tout. Enfin, c'était hyper dur à reproduire.
Ouais, les perspectives c'était super dur. Parce qu'en fait, ouais. Du coup, une partie du jeu est en 3D. En gros, c'est marrant, le parti pris qu'ils avaient, c'était tout ce qui est en intérieur ou en espace un peu restreint, ça va être en 3D isométrique, mais ton personnage sera toujours en 3D à se balader, avec des contrôles un peu hasardeux parfois. Et... même si je me souviens que Attends, j'ai testé le 1, quand tu courais dans un mur, si tu prenais le mur, tu prenais des dégâts.
Oh wow.
Alors que dans le 2, vraiment, tu longes les murs en courant, tu vois, et heureusement, parce que c'était infernal. Et tout ce qui était en open world, enfin, en tout cas dehors, c'était... T'avais une cam automatique qui ne bougeait pas. Quand tu sortais de la zone, elle se replaçait à l'endroit le plus logique, mais t'avais un bouton pour replacer quand même la caméra sinon. Et du coup, le système était pas mal fait, tu vois, parce que t'avais pas de caméra qui suivait le personnage, mais ça restait une 3D dans laquelle t'évoluais de façon assez logique et je trouvais ça assez fou, tu vois, pour l'époque. Pareil, tu vois, t'avais plein de trucs à faire, t'avais la voiture, il lui manquait le volant, fallait aller sur l'autre île pour aller le récupérer après avoir fait une sorte de petite quête et je trouve que ça posait déjà les bases de beaucoup de trucs super cool dans le jeu vidéo. En tout cas, pour moi, que j'avais jamais vu avant. Avec une ambiance musicale, avec des cinématiques qui valaient ce qu'elles valaient à l'époque, hein, parce que c'était de la 3D pâte à modeler de Windows 95. Mais quand même, tu vois, c'était
même
plus connu.
Ouais, quand t'es dans le jeu et que tu vois une cinématique, tu dis waouh, il se passe un truc. Enfin, t'as envie de la regarder, c'est super beau, c'est.
Ouais, et c'est marrant justement parce que donc t'as une petite commu autour de ce jeu, mine de rien, enfin du 1 et du 2, donc moi plus du 2, et un des créateurs du projet, Frédéric Reynal, qui était, bah justement moi quand j'étais à Lyon, je suis allé le voir en une petite conférence, et quelqu'un a posé la question, est-ce que Little Big Adventure 3 verra le jour, peut-être, et il était là en mode, bah on y réfléchit quoi, tu vois, et finalement c'était il y a 10 ans facile. Et au final, là, ils ont annoncé des reboots. Enfin, je sais pas si c'est des remakes, des reboots, comment on peut appeler ça, mais.
C'est un reboot, hein, je pense qu'ils disent dans la vidéo, c'est
ouais. Et les images du jeu, en vrai, sont très jolies, tu vois. Il y a un truc un peu à la Tunique, j'ai l'impression, visuellement. J'ai pas beaucoup joué à Tunique, mais du peu que j'ai vu, ça avait l'air de ressembler un peu à ça. Et, parce que là, bien sûr, il y a encore les versions sur GOG de l'époque, tu vois, qui sont dispo. Mais je suis content de voir qu'ils redonnent qui redonne vie à ce jeu-là en refaisant tout de A à Z. Je crois qu'ils le font sur Unity. Je sais plus si c'est sur Unity ou sur Unreal. Je crois que c'est sur Unity.
Ça, t'as vu comment ils avaient recruté leur directeur artistique ou pas?
C'est pas une histoire de... il est venu, il a dit on veut refaire ça et...
C'est un Brésilien qui était fan, qui avait joué aux deux.
Ouais.
Vraiment, alors Brésilien, genre il parle pas un mot de français, puis qui a fait un fan art pour Little Big Adventure 3. Puis ils l'ont contacté, ils l'ont dit on aimerait que tu travailles sur, bah, à l'époque ils disaient le 3, mais en fait c'est après devenu un reboot. Puis lui il raconte ça, il dit au début j'étais sûr que c'était une arnaque. Tu vois, et là genre non, moi j'étais sûr que c'était une arnaque, puis au final en fait je suis arrivé, puis j'ai vu en fait les gens qui ont fait le 2, parce qu'il y en a quand même deux là qui sont très présents pour faire le reboot.
Ouais.
Qui étaient sur le 2. Puis il a compris que c'était pas une arnaque quoi, c'était la réalité, qu'il avait déménagé à Lyon quoi.
C'est fou, voilà. En vrai. Mais c'est ce que j'aime bien aussi. En fait, je pense que, un peu dans ce que j'avais vu, tu vois, sur la com autour du jeu, il y a Frédéric Reynal, justement, qui est un peu le mec qui était le plus impliqué, enfin, très impliqué à l'époque. Je sais plus précisément son rôle, mais pour moi, c'est un peu le mec qui portait le projet ou un des visages des gens derrière le jeu, qui est là et qui dit, mais c'est fascinant que t'aies une équipe de petits jeunes qui sont passionnés par ton jeu, qui veulent refaire ça et tu vois, ça tombe sous le sens, c'est le genre de projet qui se font que parce que les gens sont passionnés et ont envie de le faire. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt financier à refaire, tu vois, à tenter le reboot de cette série. Et que c'est beaucoup de fanservice et d'essayer d'aller choper et de faire, tu vois, vivre un peu cette expérience que ça a été aux gens à l'époque. Même si, tu vois, les technos sont plus du tout les mêmes. Tout ce qu'il y avait à l'époque, c'était quand même pas mal de souffrance, hein. Chris, tu me diras, mais c'était quand même très dur. T'avais une sorte de balle rebondissante.
Une balle de magicien, genre.
Et oui, c'est ça. Et pareil, tu vois, t'avais plein de petits secrets. T'avais des mines dans lesquelles fallait se diriger avec un wagon. T'avais plein de mini-jeux. Enfin, t'avais vraiment plein de trucs. Et c'était super généreux, tu vois, pour l'époque. Et super complet comme jeu. En étant pas trop compliqué à suivre, pas trop dark, un peu goofy, mais c'était mignon, tu vois, la musique était belle, t'avais une vraie ambiance, quoi. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, tu vois, de ça.
Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Sylvain, et il y a un truc qui m'a particulièrement marqué, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, c'est le fait que toute la VO, en fait, était en français aussi.
Ouais.
C'est un détail hyper bête, mais genre j'ai des phrases, genre en regardant du gameplay et tout, j'ai des phrases de Twinsen genre ça ne m'intéresse pas, ou des trucs comme ça qui dit répéter plusieurs fois.
Ça ne m'intéresse pas.
C'est vraiment ouf de se dire que, je sais pas, c'est un jeu que j'ai pas rejoué depuis 20 ans, quoi, et il y a plein de petits détails comme ça qui restent. Et
je dois soigner mon Dino Fly.
Exactement.
C'est vraiment ça. C'est vrai que la VF, enfin la voix était trop cool, tu vois, en fait. Tout était des voix enregistrées. Il y avait des personnages qui étaient vraiment joués en plus, tu vois, avec genre sans que c'était des vrais comédiens derrière et c'était trop cool du coup, tu vois. T'avais tout ce truc là. Moi, je sais que je commençais à galérer après quand on commençait à partir. Tu prends le vaisseau, tu vas sur l'autre planète avec les aliens et tout, et tu fais mais ça part un peu en cacahuète, mais ça devient plus difficile aussi, en vrai, la difficulté, elle était quand même plus vénère, mais encore une fois, un jeu que je n'ai jamais fini, tu vois, mais qui m'a suffi à me marquer assez pour y repasser un nombre incalculable d'heures. T'avais aussi des cheat codes aussi, un peu à l'époque, tu vois, où tu pouvais faire 2-3 conneries, mais c'était un peu limité, mais je sais pas, je trouve que ça, je pense pas, après coup, avoir vu assez tôt, entre guillemets, un jeu aussi ouvert, tu vois, mine de rien, parce que forcément, il te bloquait quelques zones dès le départ. Mais t'avais des îles qui étaient quand même plutôt grandes, dans laquelle t'avais toujours des petits trucs à aller trouver ou des gens à qui aller parler. Sachant que je crois que le 2 est sorti en 97. Et en vrai, c'était quand même tôt, tu vois. Sur du PC, enfin, dans mon souvenir. Mais c'était fascinant, tu vois. C'était vraiment une expérience. Ouais, j'aime trop ce jeu.
Ouais, de toute façon, quand tu les vois, là, tous les, dans l'espèce de making-of, quand tu les vois en train d'en parler, en fait, j'adore. Voilà, genre, ils montent leur ordinateur, là, qui a un framerate tout pourri. Du coup, tu vois le balayage de l'écran. Puis, il est là en train de t'expliquer comment il a fait l'animation de l'OVNI qui s'ouvre. Puis, toi, tu regardes ça et t'es là, genre, en fait, le mec, il n'y a pas plus passionné que ça. Enfin, t'es en train d'expliquer comment ton OVNI s'ouvre alors que t'as un jeu qui est, t'as tout ça. Et puis, lui, il est là en train de t'expliquer ça alors qu'ils ont 10 minutes de contenu. Du coup, j'adore. Et puis, on entend aussi celui qui fait les musiques, justement, là, qui en parle. Puis, c'est hyper intéressant, quoi, comme. C'est dommage que c'est des studios un peu, des studios OVNI, du coup, où ils ont fait ça, ils ont été rachetés, je crois, par Sega, quelque chose comme ça.
C'était Adeline Software renommé. Qui était acheté par Sega, peut-être.
Ouais, je crois, j'ai lu quelque chose comme ça. Je pense que le fait que ça a été publié par EA puis Activision, c'est sûrement que EA a fait l'Europe puis Activision a fait l'Amérique du Nord.
Ok.
J'ai pas trop réussi à comprendre pourquoi, mais.
Ils avaient pas les mêmes noms aussi, c'est Twin Suns Odyssey, je crois, ou tout ça.
C'est ça. Pour adapter au marché anglais, mais c'est fou de voir que genre leur jeu, en fait, c'est quand même deux gros noms, EA et Activision, puis même à l'époque c'était pas non plus, c'était déjà des gros studios, quoi.
Ouais, c'est clair. J'avais essayé d'aller un peu à la pêche, tu vois, sur Twitter. Je me souviens à l'époque de, t'as des tweets du genre côté RT avec un jeu que t'as l'impression d'être le seul à avoir joué. Ouais. Et j'avais mis une image de LBA2. Et ça va, tu vois, j'étais quand même, il y en avait dans les bacs qui disaient, ah putain, c'est vrai, LBA2, toute ma vie, toute mon enfance, tu vois, ça fait plaisir, tu vois, parce que effectivement, c'est pas un gros sujet, quoique maintenant, il y a un peu d'actu, tu vois, forcément, avec le reboot, mais c'est la commu qui a joué, en tout cas, en étant jeune, j'ai l'impression qu'elle est assez engagée encore maintenant là-dessus, tu vois, j'ai l'impression que ça les a marqués, en tout cas, tu vois, comme Chris.
Clairement.
J'ai l'impression quand même, ça t'a marqué un peu aussi, tu vois.
Totalement.
C'est une enfance traumatisée, quoi.
Non, mais c'est, je pense que tu l'as hyper bien résumé tout à l'heure, c'est que le jeu, t'as cette impression d'open world, mais en même temps, avec des missions concrètes et la possibilité de faire des petites quêtes. Et pour l'époque, j'ai l'impression que c'était incroyable. Comme tu l'as très bien introduit au tout début, là, je pense que notre Dino Fly, il subit le tonnerre ou, enfin, un truc bête ouais. qui le blesse. Et de là, tu dois essayer de, donc, le soigner. Mais pour le soigner, t'apprends qu'il y a juste une personne sur une autre île qui peut le soigner. Pour aller sur l'autre île, t'as besoin de naviguer et prendre le ferry, ouais, mais sauf que le ferry, il navigue pas parce qu'il y a l'orage. Donc, tu dois trouver le mage pour arrêter. Enfin, c'est une série de choses qui en suivent une autre.
Qui n'est plus trouvable.
Ouais, parce qu'il faut accéder au phare, mais le phare, le gardien du phare n'est pas là. Faut le trouver, faut aller dans une cave pour le délivrer. Enfin,
et puis, il fallait la trouver, la cave. Hein. Je pense que dans mon souvenir, t'allais la chercher tout seul, hein, ta cave.
Ouais, ouais, t'es perdu dans un coin paumé de l'île. Enfin, c'est...
Ouais, ouais. Où tu te dis, je suis même pas censé accéder, tellement c'est bizarre, tu vois. Je me souviens être tombé un nombre incalculable de fois dans ce coin-là, tu vois. Et mais ouais, ouais, je trouve que c'est... Effectivement, tu vois, c'était ce truc-là de on t'amène de point en point, on te dit un peu ce qui va se passer. C'était déjà plutôt bien écrit, tu vois, je trouve, pour l'époque, de... Ok, t'as un objectif, bon, t'as un sous-objectif avant, encore, et puis au final, le Dino Fly, c'était que pour ensuite te balader, tu vois, un peu dans l'univers du truc. Mais en soi... Tu t'avais pas besoin du Dino Fly spécialement, enfin, tu vois, c'était une quête, et après, l'histoire continue, tu vois. Exactement. Mais, et puis même, t'as un petit lore sympa, quoi, tu vois, avec sa femme, qui attend un enfant, machin, et tout, enfin, tout était très mignon, je sais pas, il y avait un truc très, très sympa. Et, ouais, plein de bâtiments aussi, avec des sortes de labyrinthes, je me souviens d'un truc avec un, t'avais le bar, dans la première île, t'avais les souterrains dans les égouts, enfin t'avais le truc où il y a les colis là avec des sortes de trucs des sortes de belts de Satisfactory. T'avais énormément de trucs, tu vois, c'était genre t'avais pas le temps de t'ennuyer, quoi. Enfin, j'ai trop envie d'y rejouer. Je pense que je vais y rejouer bientôt.
Et une question pour toi, quand on parlait de Mario tout à l'heure, t'as mentionné le fait que t'appréciais les speedruns. Est-ce que t'as vu un speedrun justement de LBA 2?
Alors si c'est le cas, c'est il y a longtemps. Okay. Je suis pas sûr parce que du coup, je suis un peu toujours dans le même problème de j'ai envie de voir la fin par moi-même un jour et je suis pas sûr de l'avoir vu la fin encore, tu vois. Et du coup, je suis pas sûr d'avoir maté de speedrun et ça me fait un peu envie, mais en même temps, du coup, tu vois, je suis encore là un peu. Je me souviens de trucs où j'avais vu des extraits au moins.
Ok.
Mais ça doit être quelque chose. Par contre, je sais pas si t'en as maté, mais.
Ouais, si, j'en ai regardé un, en plus, très récent, je pense qu'il a de 2021 ou 22, pour un marathon, justement, de speedrun caritatif. Et c'est une fille, elle le fait en 30 minutes et quelques. Genre, le jeu où on a passé des mois, pareil, je pense que je l'ai jamais fini. J'ai juste, à chaque fois, recommencé une partie, mais sans vraiment voir la fin. Et il y a toute une gestion de, ils utilisent le lag du saut en faisant des sauvegardes, enfin un truc totalement improbable.
J'allais dire ça doit glitcher à mort, tu vois.
Ouais, c'est ça. Trouver des petits glitches et sauter par-dessus des trucs. Ils arrivent à aller sur la deuxième île sans même prendre le ferry parce qu'ils achètent juste un billet.
Et tu sais que je crois que je suis persuadé en étant gamin que normalement t'es obligé d'arrêter la pluie
pour
prendre le ferry. Et je me souviens avoir réussi, enfin, à aller sur l'île sans arrêter l'orage.
Okay.
Et je me souviens parce qu'il pleuvait encore sur l'autre truc et tout. Et je suis là, mais comment c'est possible, tu vois? Et après coup, je ne sais toujours pas comment j'ai fait. Mais je m'en souviens que c'est arrivé, tu vois. Donc peut-être que la réponse est un glitch que j'ai fait sans faire exprès, tu vois.
Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui est maintenant connu de la communauté. Apparemment, tu dois te rendre sur un ponton et présenter ton ticket de ferry. Mais même sans que le ferry soit là, tu peux le faire. Si tu ouvres l'inventaire, tu montes ton ticket, il t'emmène directement à...
Ouais, je crois que c'est ça que j'ai fait. Et mais tu vois, c'était... Et en vrai, tu perds rien, tu vois, c'est genre, t'accèdes à l'autre zone, machin, mais il faut quand même faire le truc pour... Enfin, de toute façon, pour que les aliens arrivent et tout, t'es obligé quand même de faire le truc de base, mais...
Ouais.
Mais c'est vrai que tu pouvais skip ça, effectivement. Ouais. Non, mais c'est jeu trop
compliqué. Tu deviens pas magicien, non?
Le but, enfin, alors déjà, t'as...
Non, mais si tu skips, ça veut dire que t'es pas devenu magicien parce que t'as pas arrêté la pluie, non?
Non, en gros, ça, c'est le mec sur l'île qui s'en occupe, et toi, ensuite, sur l'autre île où tu vas pouvoir aller, qui est un peu une île, dans un désert. T'as l'école de magie qui ressemble clairement, enfin, qui est au milieu d'un cimetière, sauf erreur de ma part. Voilà, bonne ambiance, tu vois. Ça me faisait flipper, évidemment, tu vois. Il y avait des trucs un peu glauques comme ça, mais bon, c'est les jeux PC des années 2090, tu vois. Et effectivement, là, tu fais tes épreuves de magie où tu dois revenir plusieurs fois qui sont pas si faciles, machin. Et tu as des toges de magicien ensuite.
Tellement stylé.
Ouais, de fou.
Moi, j'avais vu que genre sa tenue, il fallait qu'il la récupère dans un musée à son nom.
Ça, c'était incroyable.
Ouais, au tout début.
Ça.
Ouais.
Ça, c'était incroyable. Parce que du coup, t'avais des caméras, mais c'est vrai, il disait, bah non, tu peux pas rentrer, mon ref. Enfin, tu peux pas voler ta tunique et tu devais aller voler ta propre tunique. Ouais. En passant par la fenêtre et tout, et t'es là. Mais c'était tellement malin, tu vois. C'était vraiment très malin. Parce qu'il fallait comprendre le truc, tu vois. Je me souviens, il y a un gamin à un moment très énervant. Si tu lui mettais des coups, ce qui est pas très sympa, mais bon, il était très énervant. Et que t'allais ensuite dans une sorte de boutique ou n'importe où, je sais pas. Moi, je me souviens de m'être fait taper par son grand frère après. Genre, oh, wow. T'avais vraiment son grand frère et d'autres gens qui venaient en mode, quoi, t'as tapé mon petit frère et il te défonce. Et j'étais là en mode, ouais. Et surtout, tu vois, avec les graphismes du truc, c'est très polygone, tu vois, comme style de... Parce que forcément, on est sur des modèles 3D pas très compliqués. Mais putain, j'étais là en mode, ok, je l'emmerderai plus, tu vois, ça m'avait marqué. Et voilà, en tout cas, j'espère que le reboot sera cool. Je crois qu'il y a la réécriture et tout, forcément. Mais ils reprennent un peu toutes les bases et les premiers visuels sont vraiment canons et c'est trop cool.
Ouais, c'est trop cool. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se fait kidnapper, puis ça, ils l'ont cut. Genre, ils ont décidé que genre la personne se faisait plus kidnapper.
Ok. Bon, on va voir, écoute. Mais oui, d'ailleurs, en fait, eux, c'était eux qui avaient fait aussi Alone in the Dark, tu vois, à l'époque, donc... Moi, j'ai pas beaucoup joué, mais c'était dans les jeux PC quand même. Je crois qu'il était sur PS1 aussi, j'ai un doute, mais peut-être.
Sur GameCube aussi, il me semble.
Ouais. Qui était des bons souvenirs pour des gens. Moi, je crois pas y avoir beaucoup joué, mais ça venait des mêmes cerveaux, tu vois. Et moi, ça me fascine un peu cette période-là, tu vois, où ça commençait vraiment à tâtonner sur les jeux et t'as des ovnis un peu comme Little Big Adventure 2 qui sont sortis. C'est trop bien, tu vois. Je peux que conseiller de suivre un peu l'actu du reboot si vous y avez joué. La team a l'air trop, trop forte, trop passionnée.
Ouais. Ou même des let's play. J'ai vu qu'il y a plusieurs let's play un peu commentés en français sur YouTube. Ça aussi, ça.
Ouais.
Ça se regarde pas mal.
Ouais, c'est clair. Moi, je pense que je vais me le refaire là un jour en entier. Je l'avais récupéré sur Steam ou GOG, je sais plus.
Sur GOG.
Mais je crois qu'il est sur Steam aussi maintenant. Ah non, maintenant je sais plus si c'est pas les pages du
reboot. Si, sur la version anglaise, la Twins and Odyssey.
Ah oui. Mais voilà. J'adore ce jeu, donc je suis content d'avoir quelqu'un avec qui en parler.
Merci pour ce moment, oui.
C'est rare hein, de trouver des gens qui connaissent.
On va passer au dernier jeu, Outer Wilds.
Très original, hein.
Que je vais introduire juste pour aider à l'écoute. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a déjà introduit, mais pour expliquer un peu de quoi il s'agit pour que la majorité des gens là puissent comprendre. Outer Wild est un jeu d'aventure où on explore un système solaire pris dans une boucle temporelle. Les joueurs découvrent les secrets d'une ancienne race extraterrestre tout en naviguant entre différentes planètes et corps célestes. La boucle temporaire de 22 minutes ajoute un côté urgent et mystérieux à l'exploration. Et avec son récit captivant et son gameplay innovant, Outer Wilds offre une expérience unique en son genre. Donc cette expérience, toi, t'as décidé de la partager avec tes viewers.
Ouais.
Raconte-nous ça.
Ouais, moi j'avais vu que Outer Wilds était trop bien il y a quelques temps, tu vois. Avant, bon, forcément, le déclic a été la vidéo de The Great Review, comme pour beaucoup de monde. Et Outer Wilds, je sais que j'avais entendu, c'est trop bien, il y a une histoire de boucle temporelle, c'est tout ce que je savais, et il y a de l'espace, tu vois. Mais j'avais jamais creusé plus loin. La vidéo de 2 heures de The Great Review sort. Jules, avec qui je bosse, m'en parle en mode, c'est trop bien, il faut que t'y joues, nanana. Je vois que la vidéo, enfin, si la vidéo marche autant et qu'il y a 2 heures à dire et que je me dis, il y a forcément un truc cool. Je me dis, bon, on va tester. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, ce qui était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience en stream, notamment, tu vois. Parce que, il y a plusieurs trucs qui sont vrais, tu vois, sur Outer Wilds, c'est, tu peux le faire qu'une fois. Tu peux pas le refaire. Tu peux pas. Je sais pas si vous y avez joué tous les deux.
D'ailleurs, j'allais dire que moi, je suis en cours de le faire. J'ai pas encore fini. Donc, si vous évitez les spoils,
t'inquiète. Je vais faire gaffe, évidemment. Mais donc, c'est une expérience que tu peux faire qu'une fois. Tu vois, c'est genre les gens en fait vont souvent voir des streamers y jouer. Et je sais que tu vois, Great Review, même JDG là, qui a fait une vidéo récemment dessus, l'explique très bien. C'est on peut pas le revivre Et beaucoup de gens dans le chat me disaient, si je pouvais l'oublier et le refaire et le redécouvrir, bien sûr que je dirais oui à 100%, tu vois. Donc t'es un peu obligé de voir l'expérience de quelqu'un d'autre, parce que comme Outer Wilds, c'est un de ces rares jeux qui te prend pas par la main, c'est-à-dire que t'as pas d'objectif en fait. Tu n'as pas d'objectif défini, c'est juste ton exploration qui va faire en sorte que tu avances dans le jeu, tu as des indices, tu recoupes un peu les morceaux. Heureusement, il y a un tableau de bord très bien fait qui te récapitule toutes les infos, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et ensuite, c'est à toi de faire ta théorie sur où est-ce que je dois aller ensuite, comment je dois accéder à cet endroit qui m'a l'air complètement inaccessible, sans inventaire, sans power, enfin sans pouvoir, sans rien, tu vois. Et c'est un truc que j'ai déjà raconté, tu vois, et que je trouve vachement intéressant, c'est que tu n'évolues pas en fait. Ta seule évolution dans le jeu, c'est la connaissance. Et c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de lire aussi, parce que forcément t'as beaucoup de lore à ingurgiter, qu'au début tu comprends rien machin, mais au bout d'un moment tu t'attaches aux gens un petit peu que tu lis. Mais c'est pour ça que c'est important de se poser dessus. Et le fait de le faire en live, c'est très drôle, parce que forcément les gens te regardent ne rien comprendre 95% du temps, tu vois. Je sais pas si tu le fais en live, Chris, si tu le fais de ton côté ou...
Non, vraiment tout seul, mais je comprends ce que tu dis, et c'est intéressant.
Ouais, voilà, tu vois, eux, ça les faisait rire à chaque fois que je fonçais dans le soleil, voilà. C'est pas un gros spoil, mais c'est parce que c'est pas très bien d'aller dans le soleil, effectivement. Et, mais tu vois, t'as ce truc de... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un... On était, voilà... à peu près 150-200 par stream, ce qui est très cool pour moi. Je stream peu, tu vois, et depuis pas très longtemps régulièrement. Mais c'était une petite commu qui revenait chaque fois et qui savait qu'il fallait pas backseat, qui a quand même voulu backseat à un moment parce que je galérais, tu vois, parce que vraiment, pour eux comme pour moi, c'était laborieux. Mais, et pareil, tu vois, c'est un truc que JDG a très bien expliqué là dans sa dernière vidéo sur le jeu, c'est il n'y a pas de truc où tu te dis, ok, là, c'est vraiment tiré par les cheveux, tu vois, il n'y a pas d'énigme. Où c'est gratos, où c'est trop compliqué, etc. Et ce qui est fascinant, Chris, je pense pas que ce soit un spoil, mais je dans le doute, c'est juste que logiquement, tu peux accéder à la fin du jeu en quelques minutes, pas en 15 minutes, tu vois, Max.
Ouais.
Mais je pense que c'est pas une surprise pour toi.
Non,
c'est genre. Voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu n'as besoin de rien, tu peux lancer une nouvelle game. Aller à la fin du jeu, basta, tu vois. Mm-hmm. Mais sauf que tu peux, à n'importe quel moment, tu peux le faire, mais que si tu sais comment le faire, tu vois. Et ça, c'est fascinant. Et puis même l'ambiance, la musique, n'en parlons pas, tu vois, évidemment. La musique de la boucle de fin, oh là là, c'est incroyable.
Cette petite guitare, là.
Ouais. Je me suis fait avoir, là. Bien sûr, tu vois, j'étais là à contenir mes larmes à la fin du jeu en stream. Et j'ai pas fait le DLC encore. Je me suis dit je le ferai plus tard, tu vois. Et je me suis dit ok, je vais avoir besoin de voir d'autres gens y jouer, d'en descendre un peu. Le lendemain, je viens au bureau, je mets la musique, enfin la BO du jeu dans mes oreilles. J'étais en mode putain, parce que la musique est si belle.
Ouais.
L'ambiance est tellement, je sais pas, tu vois, mélancolique, nostalgique. C'est doux, c'est... Je sais pas, tu vois, c'est vraiment trop agréable. Le visuellement, il est joli, juste ce qu'il faut, tu vois. C'est très simple, hein, finalement, la 3D qu'il y a quand même là-dedans. Mais c'est, enfin, ça dépend par endroit, mais tu vois, par exemple, sur certaines planètes, c'est quand même assez simple. Mais c'est trop beau, tu vois. C'est trop beau. T'as plein de petites mécaniques super cool. Et on te prend pas par la main. Et ça fait du bien, tu vois. C'est juste de se dire, bah, frérot, démerde-toi. Va découvrir. Et la curiosité est récompensée, tu vois.
C'est ça, ouais, je pense que c'est le bon mot, la récompense. Genre, quand tu réussis à trouver quelque chose, tu te sens tellement fier, t'es comme, ok, c'est moi, là, j'ai réussi à comprendre le mécanisme, c'est bon, ouais, j'avance, tu sens ton progrès, c'est assez jouissif, quoi.
C'est clair. T'en es loin, toi, là, ou pas? T'as fait combien en heure de jeu?
En heure de jeu, je dois avoir 10 heures, mais pour l'anecdote, j'ai commencé le jeu... Après un épisode, en fait, enfin, en préparant un épisode, on avait reçu Hugo de Game Next Door, qui l'avait dans son top 3, et je connaissais, mais j'y avais jamais joué, et je l'ai commencé pour le podcast, donc j'ai avancé au maximum que j'ai pu. Après, j'ai pas joué pendant un long moment, et j'ai peur de reprendre, en fait, si j'ai pas assez de temps pour le finir. Genre, j'ai envie de le reprendre, mais pour le finir directement, quoi.
Ouais, je comprends.
Donc je, pour l'instant, je laisse un peu passer et à la fin de l'été, je pense que j'y retournerai dessus. Ouais.
Moi, j'ai fait l'erreur de dire... En fait, je crois que les gens disent que c'est entre 20 et 25 heures ou un truc comme ça pour le finir. C'est ce que j'avais lu, tu vois. Mais après, bon, chacun va à son rythme. C'est pas un concours parce que je l'ai fini en 36 heures. Mais je me suis amusé, tu vois. Je me suis amusé et c'était le plus important. Et surtout en stream, bah, tu te balades beaucoup, tu parles avec les gens, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un jour où j'ai lancé un stream où je sentais que je commençais à être plutôt proche de la fin, tu vois. Okay. J'avais l'impression, en tout cas. Et c'est là où ils ont voulu me backseat parce que j'ai passé 2 heures sur le même détail alors que j'étais bête comme tout. Mais j'ai lancé le stream à 11h. J'ai dit, OK, on termine pas le stream tant que c'est pas fini. Normalement, je fais entre de 11h à 14, de 11h à 15h, tu vois, max. À 19h, ils m'ont dit, Sylvain, arrête, c'est bon.
Ratchet.
Et surtout, vraiment, j'étais arrivé au point où j'avais l'impression de tout avoir, tu vois. Et en fait, le stream d'après, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas tout. Mais en 2-3 heures, j'avais fini ensuite, tu vois, mais j'étais là en mode, j'ai passé ma journée dessus à streamer en plus, et c'est fatigant un peu de streamer quand t'as pas trop l'habitude. Et, mais c'est trop bien, tu vois, c'était à vivre avec les gens qui se foutent de ta gueule, mais sont quand même émus avec toi quand ils revoient les trucs que tu découvres, parce que c'est très touchant, en vrai, comme jeu, tu vois, toute l'ambiance qu'il y a, de comprendre un peu, la fin est super émouvante, tu vois, C'est cool à faire en live. C'est vraiment très cool à faire en live.
Il me semble que Augustin, enfin The Great Review, l'a fait aussi en live et je crois qu'il raconte à peu près la même chose avec toi où à la fin en fait les viewers ils étaient là en mode s'il te plaît genre juste finis-le quoi, enfin on n'en peut plus.
Ouais.
Donc c'est très drôle. T'as fini par regarder la vidéo d'ailleurs ?
Bien sûr. Ouais, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé d'autres streams ensuite. Des replays de stream, je vois des potes y jouer, tu vois, j'essaie de mettre mes potes dessus pour qu'ils streament dessus aussi, tu vois. Et ouais, je trouve ça passionnant, tu vois. Et j'ai même regardé le docu une sorte studio. De making of. De quoi, ouais. Pardon?
Ouais, fait par le studio directement.
Ouais, c'est avec, comment ça s'appelle? Tu te souviens?
Une chaîne YouTube, j'ai plus le nom.
Le docu d'Outer Wilds, qui c'est qu'il a fait?
Noclip.
La chaîne Noclip sur YouTube.
Ouais, bien joué.
Ah, j'ai mon petit Wikipédia à côté. c'est mon cerveau. Et c'est super cool, tu vois, parce qu'effectivement, ça part d'un projet étudiant qui était tout clunky, tout moche, tu vois, mais il y avait déjà les mécaniques et tu regardes et ils ont réussi à en faire un truc plus joli. Et puis après, ça a été une tannée à optimiser parce que forcément, t'as des mécaniques qui font que la physique est très curieuse dans ce jeu-là, tu vois. Mais ouais, c'est cool, tu vois, de pas être guidé et te dire débrouille-toi, va visiter, va comprendre ce qui s'est passé il y a des peut-être des milliers d'années, on sait même pas, tu vois. Et débrouille-toi quoi. Et rencontre le peu de gens et le peu de traces qui restent et retrace toutes les lignes toi-même dans une ambiance qui est géniale, tu vois Tu vois, le fait d'être dans l'espace avec juste ta voix. Moi, j'avais un pote, je lui montrais le jeu et il me disait, moi, je pourrais pas jouer à ce jeu parce que parfois, t'es dans l'espace tout seul et le seul truc que t'entends, c'est ta voix, enfin, ta respiration, pardon, qui fait... Et c'est vrai que quand je me suis concentré dessus, je me suis dit, c'est vrai que c'est stressant, t'as raison, tu vois, genre, c'est très bizarre, tu vois. Et ouais, les petites musiques qui se déclenchent par-ci, par-là, quand t'approches d'un truc ou quand t'approches de la boucle, effectivement, tu vois. Tu fais, ah... Là, c'est pour ça que j'ai hâte de faire le DLC. Je vais pouvoir m'y remettre bientôt, je pense. Ça y est, là, je vais encaisser un peu le jeu, mais c'est vrai que ça fait un vide après l'avoir fini.
Parce que tu l'as fini quand, toi, exactement?
Je t'ai fini il y a à peu près un mois, je pense. Okay.
Donc, c'est encore dans la zone de deuil.
Ouais, il y a une petite zone de, il faut que j'en bouffe encore, mais peut-être sous un autre angle. Mais du coup, ouais, t'avais ce truc de putain. Je vais faire quoi? Et heureusement qu'il y a le DLC, tu vois, qui apparemment est cool et un peu dark et un peu dur, on m'a dit. Voilà, c'est pas un gros spoil, non plus, j'en sais rien de plus. Mais c'est vrai que ça va faire du bien, tu vois, de pouvoir se replonger dedans. Ça, c'est cool d'avoir cette possibilité-là. Mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont sortir ensuite. Je sais pas s'ils ont lancé des trucs sur lesquels ils bossaient, mais...
Sauf que eux ou Tunic, c'est des beaux exemples de... Comment éveiller la curiosité des gens, à travers l'exploration. Je trouve que c'est très, très, très bien fait.
J'ai pas fait Tunic encore, j'ai surtout vu, enfin aperçu de loin visuellement, tu vois, mais on me l'a conseillé pareil plein de fois, tu vois. Donc je sais pas à quel point c'est...
J'ai pas fait non plus, mais pareil, je me fais spoiler par The Great Review comme d'hab, mais...
ouais, je l'ai pas maté justement sa vidéo en disant, s'il fait des grosses vidéos sur des jeux qui peuvent m'intéresser, je me dis, on verra plus tard, tu vois. Parce que c'est que ça a un potentiel...
C'est marrant comme concept de vidéo, ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui doivent le prendre comme ça, en mode, ah, il fait une vidéo là-dessus, laisse-moi jouer au jeu d'abord, ouais, et après, je regarderai la vidéo.
Bien sûr, et je trouve que Outer Wilds, c'est un très très bon exemple pour ça, tu vois. Mais c'était marrant, tu vois, parce que Jules, là, qui me l'avait conseillé, forcément, m'a dit, j'ai maté la vidéo, mais pour autant, je suis content d'avoir... je suis content que quelqu'un y ait joué pour moi, tu vois, genre, okay. L'histoire me suffit, je sais que j'aurais pas eu la patience de faire tout ça. Et pourtant, je lui expliquais là où j'en étais, machin, il me répondait comme si j'avais joué au jeu, tu vois. Enfin, il connaissait à peu près tout, parce qu'en deux heures, il récapitule presque tout, tu vois.
Ouais, ça.
Même s'il fait pas, il raconte pas toute la fin pour pas tout gâcher, mais il t'explique quand même comment y aller, quoi. Mais ouais, Chris, j'espère que tu vas finir ça, là. Il faut que tu t'y remettes.
Mais le fait que t'en parles là, ouais, ça me donne beaucoup envie. Et juste, c'est vrai que l'univers, le fait d'être seul comme ça et tu rencontres des gens, tu rencontres des écrits, t'en apprends plus sur l'univers, la civilisation. Enfin, c'est un vrai voyage, littéralement. C'est assez fou.
Ouais, c'est clair. Mais le vaisseau, l'ambiance, le fait de revenir, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a un truc super cool. Là, moi, du coup, j'ai tous les replays de mes streams, tu vois. Okay. Et j'ai un peu, donc déjà, j'avais fait un truc rigolo, c'est que je savais qu'il y avait, je connaissais pas complètement le concept de la boucle temporelle ou comment elle s'activait, etc. Du coup, j'avais commencé à faire les comptes de morts, tu vois, de combien de fois je suis mort. Et donc, j'ai le compte de nombre de morts, où c'est ma faute et où c'est la boucle temporelle, tu vois. Et en tout, okay. Je crois qu'on est à 90 et quelques, tu vois. Donc, ce qui est déjà honteux, ce qui est beaucoup trop. Mais j'aimerais bien, tu vois, en fait. Et, je trouve ça presque dommage parce que j'ai l'impression que le jeu emmagasine beaucoup d'infos de ce que t'as fait pendant tes runs. J'aimerais avoir un récap de, par exemple, toutes mes runs, tu vois. Et j'ai presque envie de faire une sorte de vidéo, mais c'est beaucoup de taf parce qu'il y a 40 heures de rush à traiter du jeu. Mais j'aimerais faire une sorte de récap de, ok, boucle numéro 25, objectif, c'était ça, cause de la mort, ça, tu vois. Et mettre un extrait un peu de la vidéo, juste même pour moi, en fait, c'est même pas tant pour les autres. C'est juste parce que, en fait, t'as tellement un concept de tableau de bord qui suit ton évolution dans le jeu que j'ai envie de revoir un peu quelques extraits où, à l'époque, je ne comprenais rien et où les moments où tu percutes les trucs, c'est ceux-là qui sont les plus forts, tu vois. Et bien sûr, les moments où tu fais de la merde, tu vois, parce que c'est marrant. Mais parce qu'il y a plein de façons de mourir stupidement aussi dans le jeu. Mais c'est ça qui me manque un peu, c'est d'avoir un, tu vois, une sorte de petit rewind sur toute mon aventure.
C'est beau, voilà. Tu dis ça et je suis en train de faire un parallèle avec la vie, tout simplement.
Ouais, bien sûr, tu vois. C'est comme si on pouvait te donner des stats sur ta vie.
Exact, ouais.
Tu vois, c'est toujours un truc un peu fascinant de se dire, putain, combien de temps j'ai passé à dormir, combien de temps j'ai passé au chien.
Le petit montage à la bref, un peu, tu vois.
Ouais,
exact. Ah, si. Exact.
C'est clair. Mais ouais, je peux que conseiller Outer Wilds. Ouais.
Et c'est marrant, tu parlais du tableau de bord là. Je me rends compte aussi que il y a tellement de plaisir à faire les choses habituellement. Genre, tu diriges vers le vaisseau, tu t'attaches, tu décolles, tu décides sur quelle planète tu vas aller. Enfin,
petite routine.
Ouais, avec la boucle, t'es amené à refaire plusieurs fois les mêmes gestes. Parfois, c'est chiant, mais en même temps, tu prends plaisir au bout d'un moment quand tu sais que t'avances et que au fur et à mesure, t'acquiers de nouvelles connaissances, etc. Enfin,
Ouais, parce que dans tous les cas, soit tu reviens parce que t'es mort, t'as peut-être appris un truc, ou alors t'es mort et t'es deg parce que t'as pas fini un truc. Donc, dans tous les cas, tu repars un peu sur une nouvelle humeur, mais tu repars et t'es content de repartir parce que il faut continuer, tu vois. Bon, il y a des moments où j'étais pas content de repartir, notamment quand je suis passé à son bronze, tu vois, mais...
Oh, wow.
Mais c'est fascinant, tu vois, c'est... Rien ne bouge, t'es un peu la seule constante de l'univers, t'as l'impression, en tout cas, tu vois, donc... Tu te dis mince, et tu verras, je sais pas où t'en es ou quelles sont tes théories, mais moi, je me suis fait frapper par la réalité à la fin, tu vois, je fais waouh, ok, c'était donc ça le but, tu vois, ou le truc, et tu fais ah putain, et ça secoue un peu, tu vois. Je vais pas spoiler, mais en tout cas, émotionnellement, il y a des choses à, forte quand même, je trouve, à la fin. Très forte.
Ok.
Et c'est ça qui... C'est la plus belle récompense, tu vois.
Pour clore le sujet, j'avais demandé hier, par curiosité, je me suis dit, qu'est-ce que ChatGPT peut me dire sur Outer Wilds? Donc, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que t'as quelque chose de drôle sur Outer Wilds? Et le seul truc qu'il a sorti, qui m'a fait sourire, c'est qu'apparemment, les planètes chantent.
Oui. Enfin...
Voilà. Elle chantonne, tu sais, genre, enfin, des choses comme ça, et chacune a son thème, en fait.
Bah,
il a écrit, texto, les planètes ont du talent. Ça a fait, ça, ah.
Bah, t'as des trucs de son que tu peux entendre, effectivement, avec un des outils, tu vois. Je sais pas, du coup, s'il fait référence à ça, c'est sûrement ça.
Ouais, elles chantonnent en murmurant, apparemment, quelque chose comme ça, et puis elles ont chacun leur thème, en fait.
On parle pas plutôt des personnes sur les planètes?
Normalement, c'est les personnes, mais c'est vrai que quand t'es loin, tu vises une planète, t'as l'impression que c'est la planète. Donc, je sais pas trop, tu vois, si c'est l'un ou l'autre.
Possible.
Mais il a l'air de connaître un petit peu, au moins, tu vois.
il s'est renseigné.
Ouais, il s'est renseigné.
C'est poétique, en tout cas.
Ouais. Ouais, mais tu vois, mais pour le coup, le jeu est très poétique, tu vois. Ouais. Mm. C'est assez fascinant. Mais ça, j'ai regardé dans la liste, évidemment, j'ai vu que d'autres étaient venus en parler avant moi ici. Et c'est dur de pas répéter la même chose que les autres parce que c'est juste trop bien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un des rares jeux où vaut mieux ne rien savoir. Tu vois, c'est con, mais le concept même de boucle temporelle, c'est déjà un petit spoil, tu vois. En vrai, c'est bon après, c'est comme ça que les gens vendent le jeu aussi, tu vois. Mais et d'ailleurs, c'était vachement. Je sais que t'avais conclu le point, mais je me permets de digresser un peu.
Non.
Dans le docu, ils expliquaient que ce qui était le plus dur, c'était de dropper le jeu en faisant un teaser qui n'explique rien pour ne rien gâcher, parce que forcément, toute la mécanique... Enfin, tu peux pas raconter ce que c'est, tu vois. Sinon, tu gâches un petit morceau de l'expérience à chaque fois que tu racontes un truc. Donc déjà, ils pouvaient pas dropper le jeu comme ça, avec un teaser bien lourd, tu vois.
Classique,
comme tous les studios le font.
20 minutes.
Voilà. Avec du gameplay et tout. Non, ils ont fait un truc un peu énigmatique. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, ils se sont retrouvés dans le Game Pass de Microsoft. Et c'est là où ils se sont dit, en fait, je crois que c'était ça et Epic Games. À un moment, en tout cas. Après, peut-être il y avait plus d'exclus. Je sais plus, il y a eu un truc comme ça au lancement. Mais en fait, ils disaient, si on le met dans le Game Pass, plutôt que d'acheter un jeu où tu connais rien, tu l'as dans le Game Pass pour, 0€ vu que tu payes le Game Pass. Peut-être que les gens vont tester par curiosité et ils disaient, ces gens-là, une fois qu'ils y avaient joué, c'était les meilleures personnes pour prêcher le jeu, tu vois, auprès des autres, tu vois. Donc, la strat était compliquée parce que c'est un jeu où plus t'en dis, plus tu gâches, tu vois. Il y a peu de jeux comme ça, hein, tu vois.
Non, c'est vrai.
Et je trouve ça fascinant. Ils ont réussi, tu vois. C'était un gros pari de se dire, est-ce que les gens vont prendre le pli d'aller chercher par eux-mêmes, de pas se faire prendre par la main? De juste se balader, tu vois, et être curieux, quoi.
C'est vrai qu'en faisant mon introduction, au début, je voulais l'introduire en disant que c'est vraiment le jeu bouche à oreille par excellence. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils jouent parce que leur pote a dit « Est-ce que t'as joué à ça ?»« Non, tu devrais. »
Ouais. Moi, j'étais une semaine après la fin du jeu en boucle là-dessus à tous mes potes. Ils en ont marre, là. C'est bon, j'ai commencé à arrêter. Maintenant, je le dis dans des podcasts.
Un autre moyen de toucher les foules.
Ouais, c'est clair. Mais non, quelle expérience.
C'est beau. Merci beaucoup. On arrive là déjà sur les questions de la fin, Sylvain.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler des jeux auxquels tu joues en ce moment, s'il y en a?
Alors, en ce moment... Bah, du coup, en vrai, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Outer Wilds, c'est que ça m'a réconcilié avec les jeux solo parce que je jouais plus beaucoup aux jeux solo, tu vois.
Ok.
Enfin, j'ai la flemme de lancer un jeu solo parce que j'ai beaucoup joué en multi... Là, je suis sur Valorant, je suis reparti dessus, tu vois, malheureusement. Mais tu vois, j'ai beaucoup joué à Overwatch, à Valorant. Là, c'est surtout Valorant. Tears of the Kingdom, là, j'attends juste le bon moment pour pouvoir vraiment me poser dessus. Parce que, comme je disais, quand je suis tombé dans Breath of the Wild, j'y suis tombé fort. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc, j'ai laissé passer un peu le train de Tears of the Kingdom, mais je vais m'y mettre très, très vite, là. Et ouais, non, c'est essentiellement... Je me bute à Valorant avec mes potes et on passe pas forcément tout le temps des bons moments, mais on y joue.
C'est l'important.
Ouais, c'est clair. Mais là, je vais me faire... quand même quelques jeux en stream. Tu vois, là, il y a Stanley Parable que j'ai jamais fait, et qui, je sais, est un petit ovni aussi du genre. Donc, là, je pense que je vais faire ça en stream. Parce que c'est marrant, je pense, de le faire avec les gens. Et voilà, voilà un peu où on en est en ce moment sur les jeux. Beaucoup de multi compétitifs, tryhard, pas de LOL, pas ici, désolé. Mais non, j'essaie de rester loin de ça. Mais ouais, c'est juste, moi j'aime bien le FPS compétitif.
Ok.
Le tryhard un peu.
Et tu parlais des jeux en stream. J'ai été voir, je fais un tour sur ton Twitch. Et j'ai vu en replay que tu avais joué à Euro Truck Simulator 2. Est-ce qu'on peut en parler très rapidement, s'il te plaît?
En fait, je me suis dit, déjà testons, soyons curieux.
Ouais.
Et en fait, le truc que j'avais fait sur ce stream, c'est que il y a un streamer américain que j'aime beaucoup, je crois qu'il est américain, en tout cas anglophone, qui s'appelle DogDog, je sais pas si vous connaissez, qui a une chaîne YouTube, etc. Et qui est trop fort en interaction avec le chat ou en truc un peu stupide à faire dans les jeux. Et donc je me suis inspiré un peu de ce qu'il a fait pour faire en sorte que quand je dis un mot précis, le camion fonce à droite ou à gauche, coupe le moteur, klaxonne en continu, éteint les phares, va vraiment juste pour que ça me fasse chier, tu vois. Donc je pouvais pas dire camion, je pouvais pas dire autoroute, je pouvais pas dire péage, je pouvais pas dire bienvenue aux gens, et ça les amusait, tu vois. Et moi ça m'amusait aussi en vrai. Et je connaissais même pas le jeu, tu vois. Mais c'est ce genre de mécanique un peu de sur Twitch, je trouve que ça manque un peu et c'est ce qui fait des trucs très drôles. Et DogDog est un excellent exemple anglophone de ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait du Euro Truck Simulator, effectivement, j'ai oublié de le mentionner dans les jeux récents.
Non, mais c'est très cool. Et pour le coup, j'ai regardé, je pense que c'était un stream de 3 heures. Je l'ai mis en bossant un soir, justement, pour préparer le podcast. Et c'est marrant, c'est presque hypnotisant ce type de jeu-là. Je connaissais pas. Enfin,
ouais.
J'ai plein de simulateurs de tout et n'importe quoi. Mais genre voir les paysages et aussi la mécanique là avec ton script de Python, le fait que tu dises quelque chose et que ça ça te déraille complètement, c'était cool à regarder aussi.
Bah merci. Mais ouais, en fait le jeu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont joué, tu vois, même en stream ou qui en font régulièrement, et je comprends, en vrai c'est chill, tu vois, c'est pas si compliqué que ça à conduire. Bon, j'ai pas tout le setup, hein, j'y suis à la manette, il y en a qui sont beaucoup plus poussés, mais je trouve qu'il y a un truc quand même marrant derrière. Bon, c'est sympa, quoi. L'ambiance est cool. Je sais qu'il y a du multi, et j'ai vu des potes faire du multi en se rentrant dedans à 150 km/h. Je sais même pas comment ils atteignent cette vitesse avec un camion, mais, mais ça a l'air très, très, très goofy aussi, en multi. Voilà mes petits jeux.
Top. Bah, merci beaucoup encore pour ton temps, Sylvain.
Bah, merci à vous, les gars. C'était très cool.
Est-ce que t'as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte?
Bah, jouer à Outer Wilds, évidemment. Je veux pas. Je continue avec la propagande encore. Non, mais ça me semble pas mal pour conclure.
Parfait.
Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi, en tout cas, pour ce podcast.
Ah, ça va.
Salut, les gars.
Ciao. C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine !